Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Allô, allô, on se retrouve pour un nouveau épisode aujourd'hui à la CFAQ de l'Université de Sherbrooke. Mon nom est Antoine, on est à l'épisode sur les croyances et les religions du podcast Avis Avisé, où on demande de l'avis aux personnes de l'Université de Sherbrooke, des étudiants ou des personnes en maîtrise. Aujourd'hui, j'ai ma collègue Hello qui est là. Allô.
Salut.
Hello, hello.
Salut.
J'ai deux invités que je vais laisser se présenter. Battez-vous pour avoir l'ordre de passage.
Je vais y aller. Pierre-Simon Claret, moi j'ai fait un multidisciplinaire en sciences et religions, théologie et diversité culturelle du côté de l'Université Laval, qui est offert à distance, très intéressant de la part de l'Université Laval. Donc, ça a bien été les études. J'ai été admis en droit après à l'UQAM et parallèlement à mes études de droit, j'ai fait la maîtrise en études du religieux contemporain ici à l'Université de Sherbrooke. Okay. Je suis en train de rédiger le mémoire sous la supervision de Lorraine Desrochers et Claude Gélina, que je salue.
Ça se passe bien?
Ça se passe bien. J'ai envoyé le troisième chapitre, ça donne hier. Donc, je vais voir ce qu'ils vont me dire si je veux me faire passer au rouleau compresseur. par la suite, que dire d'autre?
Ton âge, si tu veux.
J'ai 31 ans, père d'une petite fille. Okay. Je travaille aussi à temps plein du côté de la Commission des droits de la personne.
À Sherbrooke?
Du côté de Montréal. Okay. Mais ils ont une politique de télétravail, donc ça va quand même bien. Et puis, c'est ça. Études, travail, parentalité.
Tu travailles quand même un peu quand même avec la culture puis la religion, un peu. T'es quand même proche du sujet qu'on va parler.
Oui, disons que j'ai baigné dans le sujet, effectivement.
Parfait.
Bonjour, moi c'est Ayen Lee, étudiant en géomatique. Donc j'ai fait le bac et là actuellement je suis à la maîtrise. Que dire d'autre, je travaille au centre culturel en tant que coordonnateur. J'ai fait beaucoup d'emplois dans le service à la clientèle, mais je n'ai pas perdu ma foi en l'humanité.
Yeah, on aime ça.
Puis sinon, je fais aussi du rap, si vous voulez aller écouter sur Spotify. Ouh. Notre groupe, Haze, H.A.Z.
Répète un peu.
Haze, mais ça s'écrit H.A.Z.
OK.
On va écouter ça.
On va faire prendre une note de ça. C'est quel type de rap? Y a-t-il un mélange de culture?
Un mélange de style comme old school, puis plus inspiré ceux qui connaissent Strange Music ou... Ce serait dur à décrire, mais en tout cas, c'est pas du mauvais rap comme on l'entend beaucoup aujourd'hui.
OK, nice, nice. On aime ça.
C'est pas du mumble.
donc aujourd'hui, on va parler de croyances et religions. Premièrement, première question, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes religieux? Est-ce que vous l'avez déjà été?
En fait, moi, je suis né d'un père musulman, quand même assez, très assez pratiquant, puis d'une mère... catholique non pratiquante. Puis donc, dans mon enfance, ça m'a pas mal été imposé, l'islam. Puis, vu que c'était vraiment imposé, peu expliqué, peu ressenti, je disais en public, je suis musulman, mais je pratiquais rien du tout. Des fois, je faisais juste accompagner mon père.
Est-ce que ta mère accompagne ton père aussi? Ou du coup, c'est...
Non, c'est ça. Non. Fait que justement, vu que les deux avaient différentes religions, c'était pas tant un sujet chez moi, c'était plus un sujet de mon père à moi.
Mais c'était-tu, en fait, c'était peut-être même plus un peu plus individuel, dans le sens, dans le sens que ta mère avait son droit, fait qu'il y avait peut-être un affaire aussi dans la famille de pour chacun avoir droit à sa propre rapport à la religion, je sais pas.
J'imagine quand t'es un adulte, là, mais quand t'es un enfant, c'était plus t'es musulman.
Okay, okay, okay.
puis c'est ça, et donc ça m'a jamais... vu que c'était imposé, je trouve qu'on apprend dans la vie les choses vraiment de manière plus ressentie quand tu fais toi-même ton propre chemin. Et non, quand c'est imposé. Donc, avant, j'étais vraiment à penser que la religion, c'est même inutile. Mais là, avec mon propre chemin que j'ai fait au cours de la vie, j'ai vu qu'il y avait tellement de valeurs qui sont prônées dans toutes les religions et d'apprentissage que je découvrais et que j'aspirais même à. Et donc, là, de plus en plus... En tout cas, quand j'entends beaucoup de religieux parler, j'admire beaucoup de choses. Il y a aussi certains points où, notamment sur... l'imposition, certaines restrictions où je connecte moins. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup d'outils dans la religion qui sont très utiles.
OK. Hello, ton rapport, toi, avec la croyance, religion?
Ben, moi, j'ai jamais été religieuse. Je suis même pas baptisée alors que ma famille est d'origine catholique.
Sens-tu pratiquant ou plus ou moins?
Mes grands-parents, oui. Enfin, ouais. J'ai un côté de ma famille qui le sont énormément. Ma mère était beaucoup plus jeune. Et à cause d'un événement, ça a fait en sorte qu'elle l'était plus du tout. Ce qui fait que ça n'a jamais été vraiment un sujet de discussion. On l'a jamais été. J'ai vu mes grands-parents l'être et aller à la messe tous les dimanches, enfin, vraiment être religieux. Mais c'est jamais, ouais, moi ça m'a jamais intéressé. J'ai plus ou moins lu quelques passages de la Bible, mais sans que ça m'ait transcendé. Je trouve pas spécialement que les valeurs transmises là-dedans m'intéressent ou sont intéressantes. Ou, sont
aucune valeur, en fait, la valeur de l'amour.
T'en as quelques-unes qui sont bonnes, mais je trouve que t'en as quand même beaucoup qui sont très restrictives. Et,
on en reparlera tantôt dans les problématiques religieuses, mais.
Moi, je vois plus les problèmes en fait que bénéficie à ça.
T'es-tu une personne négative dans la vie?
Oui.
OK, bon, mais ça peut expliquer. Ça peut expliquer ton point de vue, mais c'est ce qui est un point de vue, il en faut. Toi, Pierre?
Moi, de mon côté, écoute, c'est sûr qu'avec le cheminement d'études que j'ai fait, je peux pas nier que la religion m'a toujours intéressé. Là, depuis que je suis adolescent, j'ai toujours été intéressé, notamment aussi par l'ésotérisme. Et moi, vers l'âge de 19 ans, si je me trompe pas, j'ai adhéré à un mouvement qui s'appelle l'Église essénienne. Mouvement qui, je le dis ouvertement, là, a déjà été accusé d'être une secte dans l'espace public. Je continue d'être membre aujourd'hui, pratiquant d'ailleurs. Et d'autre part, mon cheminement d'études en parallèle de tout ça m'a quand même permis d'avoir un certain regard extérieur. Et je te dirais que sur cet aspect-là, ça fait en sorte que je suis un croyant pleinement. C'est une croyance qui est assumée, je suis capable d'en discuter. Je suis capable aussi d'avoir une certaine distance par rapport au mouvement que j'ai adhéré. Puis, c'est...
De la remettre en question, en fait.
Ben, de la remettre en question, je te dirais que j'en reviens encore une fois à mes études. Là, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec tellement de personnes de croyances différentes. J'ai eu en entrevue des témoins de Jéhovah, j'ai eu en entrevue des Mormons, j'ai eu en entrevue des membres du Falun Gong. Toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient une foi, mais étaient capables de, dans un espace personnel, lorsqu'on leur offrait cette chance-là, de prendre leur distance à travers, même s'ils étaient des adhérents très profonds à certaines croyances et à certains mouvements religieux, des églises ou des mouvements spécifiques. Donc, ça, c'est mon cas, puis je pense pas que ce cas-là est différent de beaucoup de croyants qu'on prend le temps de questionner, là. Effectivement.
Okay. Moi, personnellement, mes grands-parents, même là, c'est pas des. Ça a jamais été des grands croyants. Dans le sens, en tout cas, s'ils l'étaient, ils l'ont jamais imposé. Ils allaient à l'église parce qu'eux, ils allaient, fait que les enfants suivaient. Mes enfants étaient pas obligés de comme. Parce qu'ils n'avaient pas laissé les enfants à la maison. Ils avaient 4 enfants à un moment donné, c'était comme compliqué. Fait qu'ils allaient à l'église, les enfants venaient avec eux, mais ils n'étaient pas obligés de comme prier s'ils voulaient pas prier. D'un côté, puis l'autre côté c'était un peu plus, mais dès qu'ils ont été adultes, ouais, mais même pas le 14-16 ans, mais ils ont pu décider d'y aller ou pas s'ils voulaient. Puis même mes grands-parents étaient déjà un peu moins impliqués dans la religion quand ils ont grandi. Moi j'ai été baptisé parce que mes grands-parents le voulaient, parce que c'était important d'être baptisé dans la famille, mais c'est pas important dans l'église. Fait que parfois ils y vont les dimanches en famille. C'est plus je pense que c'est plus une réunion familiale plus qu'un lien avec la religion. Moi, en tout cas, ça se croise, mais je pense que une des grosses valeurs, c'était la famille là-dedans, dans cette affaire-là, de se revoir les dimanches.
Fait que toi, t'es pas vraiment religieux du tout.
Non, je dirais pas que je suis religieux parce que. En tout cas, j'ai jamais vraiment cru en Dieu. Je me souviens quand j'étais au primaire puis que. On était en cours d'éthique. Comment ça s'appelait déjà? Mais les cours de religion là, au primaire là, qu'on avait.
Il y a eu éthique et culture religieuse.
Après, oui.
Après, mais sinon, il y a eu le catéchisme.
Oui, moi j'avais catéchisme encore. J'étais encore dans le temps où moi, il y avait encore que certaines écoles qu'il y avait du catéchisme. Puis, mon Dieu, c'était plate.
La réforme a eu lieu, je pense, en 96 ou 97, là, mais ouais.
Mais moi, je suis en 1999, puis dans mes écoles primaires, il y en avait encore du catéchisme. Jusque dans
Sérieux?
Oui. Moi, j'avais été à Saint-Laurent-sur-Richelieu, puis il y en avait jusqu'en quatrième année.
OK.
Puis après, ils l'ont changé en éthique.
OK.
Mais j'étais pendant qu'ils l'ont changé, mais à mon avis, je devais être dans les dernières écoles, sûrement. Mais ouais, fait que, je sais pas, je trouvais ça plate, là. J'étais comme, il n'y a aucun sens, ça n'a pas de sens. C'était comme, j'avais l'impression de lire un roman de science-fiction, là. Je comprenais pas, puis j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup aussi. Fait que c'était des affaires que je lisais dans les trucs de science-fiction, puis j'étais comme, genre, voir que le monde croit en ça. En tout cas, quand j'étais jeune, mais non. Ma mère est très, très, très athée. Il y a aussi ça. Mon père est plus mitigé dans le sens que chacun vit sa vie. Ma mère est plus athée. On devrait pas avoir de religion. Moi, je suis plus comme mon père. Puis à force de lire, à force d'aller sur parler à d'autres mondes, puis d'évoluer, ben, j'ai trouvé la Wicca. Je me suis full intéressé à ça, puis je me considère une sorcière dans ce cas-là. C'est comme ça qu'on dit les pratiquants de la Wicca. Puis sorcière aussi veut aussi dire féministe d'une certaine façon. Mais en tout cas, fait que je trouvais que ça c'était beau, puis tout. Donc c'est ça, je suis plus ou moins pratiquant là, quand ça me tente, là, quand j'ai besoin de quelque chose. Mais c'est pas mal ça dans la religion en général, je trouve. Mais
là-dedans, c'est un peu quoi la force supérieure ou est-ce qu'il y en a une?
C'est ce que tu veux.
Ou... Okay.
En fait, c'est comme la dame lune puis l'homme soleil. Okay. Mais c'est ça. Mais c'est t'as une entité féminine puis une entité masculine puis c'est la féminine qui est dominante.
Okay.
Puis le masculin, en fait, il y a une légende qui dit que le masculin à chaque année, il va au nouvel an, en fait, il va faire procréer avec la madame. Ils ont un enfant, lui il meurt, puis il devient l'enfant. Puis c'est un enfant de même, c'est un cycle de même. Puis dans une des façons de le croire et de lire les légendes. Mais fait que c'est ça. C'est vraiment une affaire de. Puis c'est très libre. Tu peux. En fait, dans la Wicca, tu peux dire que, mettons, la femme, c'est la Vierge Marie. Puis tu peux dire. Tu peux donner le nom que tu veux. Ils n'ont pas de nom précis. Fait que c'est assez libre, en fait, à ce niveau-là. Puis ils n'imposent jamais rien au niveau de ton implication. C'est un des fondements, c'est que tu y vas à ton rythme et que tu vas autant que tu veux, quand tu le veux et quand tu en as besoin. Fait que c'est dans les bases de cette croyance-là. Donc, je trouvais ça nice. Donc, après cette petite présentation, on va se laisser sur une petite pause et on vous revient juste après. Yo, swag! Donc, ben, on se retrouve après la pause avec mon fameux Yo Swag de classique après pause. Donc, pour croyance religion, on s'est un peu montré dans ce sujet-là. La première question, ça serait, est-ce que vous pensez qu'il y a une importance à la croyance, à la religion dans la société ou pour un individu en particulier, qu'est-ce que ça peut être? Puis ce serait pas mal sur la question. Donc, je sais pas si quelqu'un veut y aller en premier.
Ouais. Ben, au niveau de l'individu, je trouve que ce que ça apporte le plus, c'est le sens. Puis je pense que justement, en Occident, où il y a quand même, en tout cas surtout au Québec, un déclin de la religion, on ressent aussi une certaine perte de sens. Puis je pense que c'est lié. Parce que souvent, on se pose la question, c'est quoi le sens de la vie? Puis je trouve que c'est pas une bonne question parce qu'il n'y a pas vraiment de sens, mais il y a le sens à ta vie. Puis ça, c'est dans les actions que tu fais au quotidien. Puis la religion te permet d'accorder quelque chose de sacré à tes actions du quotidien.
Ouais, puis de donner un but, peut-être.
C'est ça aussi. Ouais. Puis dans la plupart des religions, il y a plusieurs actions qui sont juste bonnes psychologiquement. Fait que par exemple, la méditation, prière, ouais. Ça réduit l'anxiété. Aussi, le fait de se retrouver plusieurs personnes ensemble à la même place, ça apporte la connexion aux communautés.
Ouais, communauté. Ça, c'est je pense que la seule chose qu'on peut prendre dans la religion, c'est que ça crée des communautés.
Exact.
Puis que souvent, les personnes, c'est un des premiers. Tu pourrais me le dire, là, t'as fait des études dessus, mais. moi, j'imagine que c'est un des premiers. Quand on parle de personnes qui se convertissent à une religion, là, pas quelqu'un qui est né dedans. Quelqu'un qui se convertit, je pense que le premier truc, c'est à créer une communauté, aller créer un contact humain avec d'autres personnes, je pense.
Oui, il y a plusieurs éléments. C'est que ça a bien été dit tout à l'heure. Là, il y a une espèce de déclin du religieux. Mais ce déclin-là se produit beaucoup dans l'espace public. Ouais. Au niveau des individus, il n'y a pas vraiment de déclin du religieux dans notre société. Les gens continuent de se poser des questions puis continuent de chercher. Ce qu'on remarque plus, par exemple, c'est qu'il y a une espèce de fragmentation des grandes religions, puis il y a une fragmentation aussi des institutions religieuses. Les eux autres sont en perte de pouvoir, mais les individus continuent de croire de différentes façons et à divers degrés. Puis, oui, c'est un ciment social. C'est l'expression que j'ai vue à plusieurs reprises là, dans mes études. C'est que il y a même des personnes qui vont vous dire qu'elles sont non-croyantes, mais qui continuent de faire des prières, dans des pratiques religieuses, parce que...
Ben Noël.
Il y a presque quelque chose de culturel.
Oui.
Un exemple vraiment flagrant qui me vient, puis qui est dans les enjeux de l'heure, là, c'est par exemple le port du voile. Quand on prend vraiment le temps de s'asseoir avec des femmes qui portent le voile, il y en a beaucoup qui vont vous répondre que c'est pas
religieux.
Il y a un élément culturel.
Ouais.
Et puis, tu sais, on a l'espèce d'idée que c'est des femmes qui sont récluses à la maison, qui sortent pas de chez eux. Mais si vous faites un espèce de portrait type de la femme au Québec qui porte le voile, c'est une femme avec une maîtrise d'une université montréalaise. Ouais. Donc, il y a...
Mais ça, si on parle à la population québécoise, c'est sûr que... Je sais pas au niveau des autres pays qui sont musulmans. Je sais pas à quel point, juste parce que aussi dans la culture, dans certains pays encore, la situation pour les femmes, c'est compliqué encore.
Oui, on peut pas se le nier. On peut pas le nier, là, c'est difficile, surtout les religions abrahamiques, là, donc tout ce qui est judaïsme, christianisme et l'islam, ça va être difficile pour les femmes, effectivement. L'Orient, ça pourrait être un autre débat.
Oui.
Mais ce qu'on remarque, encore une fois, c'est qu'il y a quand même des bassins de résistance chez certaines femmes qui sont intéressants à étudier. Dans le printemps arabe, les femmes ont occupé une place importante là, dans cette espèce de révolution-là dans les pays arabes. Puis si on retourne au Québec, beaucoup vont chercher à s'émanciper. Je reviens à ça à travers l'éducation. Donc, c'est pas un sujet qui est simple, là, on va le dire. Là.
Non, mais c'est sûr que l'éducation, ça va dire... moi, j'étais en train de lire un livre pour un de mes cours qui est Littérature du monde. Ça s'appelle « Le rêve de Sultana ». Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Ça...
C'est un texte féministe d'une femme indienne qui provient aussi du coup l'Inde avec parce qu'il y a plusieurs religions en Inde. Mais ça qu'il y a du musulman aussi.
L'Inde est assez foisonnante en religion. La religion majoritaire, c'est l'hindouisme, mais l'hindouisme en tant que tel, il y a une espèce de débat en anthropologie et en sociologie à savoir est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est une civilisation composée de différents mouvements, en tout cas.
Okay.
Mais c'est une belle question à savoir si l'hindouisme c'est une religion. Là.
Mais ça, cette femme-là, en fait, c'est un des premiers textes de femmes féministes. Puis pour vrai, c'est vraiment bon d'ailleurs. C'est vraiment c'est genre féministe à l'extrême. Là. C'est genre on embarre les hommes. Genre, on les met en cage, là. C'est vraiment à ce point-là. Là. Mais c'est vraiment bon. Puis elle a créé plein d'écoles, puis tout. Puis c'est vieux, du coup, c'est ça. C'était juste pour rebondir sur le fait que les mouvements féministes dans ces pays-là existent depuis très longtemps, puis qu'il y en a plein qui ont créé des écoles pour femmes, qui ont créé des écoles pour les jeunes filles. Et ça se fait, puis ça se fait encore, puis ça continue. Mais c'est sûr que le gouvernement n'est pas parfois derrière eux pour les aider.
Oui, surtout quand il n'y a pas de séparation de pouvoir entre les pouvoirs religieux et l'État. Là on est dans les pouvoirs autoritaires, effectivement.
On pose une question. Est-ce qu'il faudrait que la région ait un pouvoir politique?
Moi, je peux me lancer. je vais laisser un peu la parole aux invités. Autres,
après, étant française, je suis très pour la séparation de l'Église et de l'État parce que je trouve que c'est important. Notamment quand on veut être dans une société qui a plusieurs religions, si on veut accepter ça. Après, j'imagine que pour des croyants, c'est là où je me pose la question pour les croyants, j'imagine que pour eux, c'est plus intéressant que l'État soit affilié à la religion, notamment, je pense, à l'islam, où il y a quand même beaucoup de codes à respecter. Mais remarque, le christianisme, c'est assez similaire.
Christianisme, les nonnes aussi, ils avaient des...
Mais le christianisme, ce qui se passe, c'est que... En Occident, en tout cas, vu que ça a été la religion majoritaire pendant très longtemps, il y a quand même beaucoup de règles qui sont restées. Et du coup, ça pose moins de problèmes. C'est par exemple, le vendredi, il faut manger du poisson. Dans les cantines françaises, le vendredi, c'est poisson. Fait que forcément, si ton interdit religieux, il te dit qu'il faut que tu manges du poisson le vendredi, et que c'est déjà le cas dans ton pays, c'est plus facile à suivre.
Okay, ouais.
Là où, dans les écoles, pour pas manger de porc, tu vois, c'était déjà plus complexe, maintenant, ça va mieux. Fait que T'sais, j'imagine que quand t'es religieux, t'aimes bien ça, que l'État et ta religion soient affiliés.
Il pourrait avoir que toute religion ait au moins une personne dans le gouvernement. Sans nécessairement qu'il ait le pouvoir, mais qu'il ait un droit de parole.
Ouais, mais c'est ce qui se passe au Liban. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait pour le pouvoir au Liban, c'est ils ont un pourcentage de la population et des religions du style, le catholicisme est la religion majoritaire. Donc, alors c'est pas le Parlement, là, mais disons qu'au Parlement, la majorité des députés va être de cette religion-là. Et ils ont fait ça pour toutes les religions majoritaires qu'il y avait au Liban. Le problème que ça pose, c'est que comment tu fais pour savoir quelle religion devient prioritaire, puis c'est comme, mais disons que ça fait beaucoup de problèmes politiques entre eux. Par la suite, là, comme on peut le voir au Liban, c'est pas la situation la meilleure qui se passe.
Ouais, ça avance pas beaucoup, je pense.
Mais c'est ça, ça doit être dur à être égalitaire, puis je suis d'accord avec la séparation de l'Église et l'État, parce que ce serait un de mes principaux problèmes avec la religion, c'est vu que c'est clairement fait par l'homme, mené par l'homme.
Pour l'homme.
Et qu'il y a un aspect de pouvoir, parce que les gens croient en toi, etc. Dans toutes ces situations-là, ça fait que ça apporte la volonté d'accaparer le pouvoir, de la corruption.
Un déséquilibre, en fait.
Exact. Fait que déjà, corruption avec l'argent, c'est une chose, mais corruption avec les croyances profondes des gens, l'identité des gens, je trouve que quand ça va, là, c'est mieux, à mon avis, que la religion, ce soit et la spiritualité en général, ce soit un parcours personnel, puis que la laïcité, c'est bien...
Ça reste dans la vie privée, en fait, ouais, puis pas impliqué dans la vie publique. OK.
Quand j'entends qu'il y a une séparation du religieux et de l'État, c'est probablement, je vais aller assez direct, là, c'est probablement une des plus grosses forces du 20e siècle. Parce que d'une façon ou d'une autre, le religieux va trouver un moyen pour en venir. On le voit par exemple avec les États-Unis. Je veux dire, Donald Trump a été mis au pouvoir par la droite religieuse américaine.
Ouais.
On l'a vu au Canada à travers Harper, ça a été mis au pouvoir par la droite religieuse canadienne dans les provinces de l'Alabama. Donc, l'idée qu'il y ait une séparation du religieux et de l'État, je pense qu'elle est beaucoup plus importante du côté des pouvoirs judiciaires. C'est-à-dire que la réflexion de la procédure judiciaire et des décisions judiciaires ne doit pas être conduite par des idéologies religieuses. Mais au niveau de l'État, vous allez toujours avoir des politiciens, des personnalités ou des mouvements.
Le peuple a des religions, donc les religions vont avoir un impact.
Ils vont venir teinter les politiques de l'État. Puis même en France, il y a cette espèce d'idée-là de la séparation de l'État et du religieux, ce qui est bien. C'est depuis, je pense, 1905 à travers les lois républicaines sur ce sujet-là. Mais c'est parce qu'on a des régions qui sont encore sous le système concordataire à cause que... Elles étaient, c'est l'Alsace et la Lorraine, mais elles étaient avant la Première Guerre mondiale sous influence allemande. Donc,
C'était l'Allemagne,
oui. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ils sont encore sous un système concordataire. Ça veut dire que l'Église a encore des pouvoirs de nature politique et étatique là, dans ces régions-là. Donc, quand on parle de séparation du politique et du religieux, c'est beaucoup plus une espèce d'idéal à essayer d'atteindre plutôt qu'un fait qui a été atteint.
Mais est-ce que tu penses qu'on peut l'atteindre? Moi, je pense pas.
Non, je suis convaincu que de notre vivant, on ne verra jamais ça. Là.
Mais je sais même pas si c'est possible. Mais comme... Tu penses?
Non, je pense que c'est pas possible non plus. Ça. Parce que c'est la démocratie, donc s'il y a des religieux. Mais ce que je trouve, par exemple, au Canada, c'est qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises au nom de la religion.
C'est ça, donc on peut pas nier que la religion fait partie du politique, fait partie du social, mais il faudrait juste s'assurer que ce soit pas une religion qui soit au pouvoir. Que la personne n'est pas au pouvoir au nom de sa religion, mais au nom d'un parti. Puis que le parti n'est pas au nom d'une religion non plus. Mais au bout d'une idéologie. Puis après on peut aller à l'idéologie qui n'est pas... Mais on peut aller loin dans ça, mais je pense que ça serait ça à atteindre. Puis, ou comme j'ai dit, essayer de mettre une égalité pour toutes les religions sur Terre, dans tous les États, mais là, ça va être long. Parce que des religions, il y en a autant qu'il y a de personnes, moi, j'ai d'avis. Parce que chacun a sa propre vision sur la religion, je pense. Tu n'auras pas deux visions pareilles sur l'ensemble des textes puis l'ensemble de l'histoire d'une religion.
Puis même si tu l'as, il y en a tellement que ça serait quasiment impossible à faire en sorte qu'elles soient toutes représentées et
ouais,
toutes correctement.
Oui, parce qu'il y a peut-être des pays qui ne l'ont pas, mais du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas l'avoir parce que là, il y a quand même un... En tout cas,
mais c'est drôle que tu en parles. Là, la Belgique est un exemple assez intéressant parce qu'il faut, comme démontrer que tu as 10 000 membres.
Oui.
Pour recevoir une représentation étatique au niveau de la Belgique.
Okay.
Puis c'est même, il y a un article de la Constitution de la Belgique, là, il faudrait que j'aille me plonger dans mes lectures là-dessus, là, puis je pense pas que c'est le contexte. Mais grosso modo, en Belgique, il y a les systèmes religieux et il y a l'espèce de foi laïque, le système laïque. Ça veut dire que tu peux te marier à la mairie dans le système laïque ou tu peux te marier dans un contexte religieux si ta religion est reconnu par l'État. Et ça a soulevé beaucoup d'enjeux. Là. Un des deux enjeux qui est intéressant et qui était observé par les sociologues des religions, c'est le premier, c'est qu'on a vu des minorités religieuses de l'hindouisme essayer de faire reconnaître l'hindouisme comme une religion. Mais la problématique, c'est que c'est tellement des mouvements décomposés qu'aller trouver 10 000 membres, ça constitue une problématique. Autre chose qui avait été observée en Belgique qui est vraiment amusante, c'est que vous avez, dans l'article de la Constitution, vous avez comme un alinéa qui constitue la croyance religieuse, puis un autre alinéa que c'est les mouvements qui veulent avoir ces droits-là, mais qui s'inscrivent comme des mouvements non-croyants. Puis les bouddhistes ont débarqué en s'inscrivant comme des mouvements non-croyants, ce qui a encore posé des casse-têtes au niveau de l'État. Donc, il y a différents systèmes avec leurs faiblesses, avec leurs qualités, mais vous allez toujours avoir...
La vie est faite de petits problèmes. une politique, il y aura tout le temps un problème dans une politique parce qu'il y a des personnes au pouvoir avec des... Juste le fait qu'il y a une seule personne au pouvoir ou qu'il y a un groupe au pouvoir fait que tu as des élégies qui vont passer au-dessus des autres. Fait qu'il va y avoir un problème quelque part pour une personne ou un groupe de personnes à un moment donné.
Dès qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Oui, c'est ça. Ah, wow, c'est une bonne citation.
En tout cas, je trouve que c'est ça le paradoxe avec la religion. On parle de plusieurs religions qui veulent chacun avoir leur voix. Mais ce que je trouve, c'est que pas mal toutes les religions prônent les mêmes valeurs. Dont on ne forme tous qu'un sous Dieu, le partage, etc. Et donc, je trouve tellement qu'après, de faire des petites guerres entre religions va contre ta propre idée de la religion.
Ah, mais c'est oui, certainement. Je ne comprends pas. Moi, toutes les croisades et tout ça, est une...
C'est ça. Mais que justement, les croisades, c'est comme c'est plus... Ça n'a même pas vraiment rapport avec la religion. C'est plus tu veux prendre du territoire à quelqu'un. Mais vu que la religion, c'est tellement dans l'identité des gens, pour justifier ça, tu dis « Ah, c'est pour la religion », puis ça passe mieux que juste dire « On va aller voler ta maison
». C'est Dieu qui le dit.
Mais... C'est moi, personnellement, je pourrais presque me dire que je me sens croyant, mais en l'amour, puis pas en une religion.
Ouais, c'est une croyance.
Et donc, comme tantôt tu parlais d'idéal, ben ça arrivera jamais, mais que l'idéal, je trouve, ce serait qu'au lieu de vraiment mettre l'accent sur quelle est ta religion, mettre l'accent sur c'est quoi les valeurs, puis c'est sur à quoi que tu pries, puis généralement, c'est justement à l'amour, puis
ou bien des autres, à ta famille, à la réussite, à être capable de donner assez de bouffe à ta famille.
Exactement.
Fait qu'en gros, ça serait un peu... Mais en fait, ça revient à dire c'est enlever les classes, c'est enlever les noms aux choses, c'est dénommer les choses, puis juste faire expliquer qu'est-ce que c'est. Puis quand on fait juste expliquer, on se rend compte qu'on est toutes pareilles. On a mis des noms sur des choses pour se différencier, mais ça crée beaucoup trop de... En tout cas, moi, c'est mon avis. C'est beaucoup de choses dans la vie. Je trouve qu'on a nommé trop de choses.
C'est vrai. Mais maintenant que tu le dis, je vois quand même un défaut là-dedans, finalement. C'est que ça diminue le sentiment d'appartenance. Comme justement, on dit l'importance de communauté.
On peut juste être un seul gros peuple aussi.
Ouais, je sais ça. Mais je pense que c'est difficile. Mais...
Ouais.
En tout cas, au Québec, c'est difficile. Parce qu'on est trois peuples fondateurs. Là. On est les Autochtones, les Français puis les Anglais. Puis dans les Autochtones, ils ont 10 nations différentes au Québec. Mais
puis ben, chez les Anglais, parfois, t'as des...
Oui, c'est vrai.
Ils sont pas d'accord.
Mais ce que tu me décrivais là, ça se rapproche vraiment de la philosophie, de la théosophie qui avait été fondée au 20e siècle par Elena Blavatsky, si je ne la change pas son nom. C'est que cette espèce d'idée-là que toutes les religions seraient bonnes puis qu'il y aurait des valeurs centrales à ces systèmes religieux-là, C'est des idées qui viennent du 20e siècle, puis de plusieurs mouvements ésotériques de cette époque-là, puis même qui pourraient remonter, je pense, au 19e siècle.
Même avant, puis ça peut venir à longtemps. Je veux dire, qu'est-ce qui est ésotérique? Les païens, qu'ils appelaient dans le temps les Celtes, puis tout ça, étaient déjà dans une affaire où chaque peuple celte avait quasiment sa propre religion, puis c'était correct. En tout cas, ils se battaient pas pour les religions, ils se battaient pour le territoire ou pour autre chose, mais...
Le cas des Celtes est intéressant. Mais tout ce qui est religion païenne, là, essentiellement, c'est l'idée que chaque personne a sa divinité presque.
Ouais.
Chaque village, chaque communauté, finalement, se retrouve avec sa divinité. Puis que c'est souvent cette divinité-là était connectée avec une réalité géographique ou une réalité que traversaient ces peuples-là. Donc, s'il y avait des bonnes récoltes dans ce village-là, on se disait qu'il y avait un dieu lié à ce phénomène-là.
Pour les aider, oui.
Est-ce que c'est un peu similaire à la Grèce antique où justement ils avaient tous une religion commune, mais disons que chaque ville disait OK, moi je suis proche de la mer, fait que mon dieu prioritaire ça va être Poséidon, vu qu'on va beaucoup pêcher, ou moi j'ai beaucoup d'oliviers, fait que ça va être relié à tel dieu qui lui.
Ou d'après ton métier même. Souvent les pêcheurs puis les navigateurs étaient beaucoup plus dans le Poséidon, mais des personnes qui étaient, mettons, dans l'armée de terre, c'était plus Arès ou genre ça. Les personnes qui étaient plus à la poétique, c'était plus Mercure ou Zeus. Fait que ils avaient vraiment ça. Oui, au niveau des villes, mais même au niveau des métiers, c'était, mettons, les artistes et les philosophes, c'était Dionysos ou c'était genre Mercure ou Hermès, du coup. Mais...
Les alcooliques, c'était clairement Dionysos, ça, ouais. Mais... Ouais. Y a-tu du vin de servi après l'émission?
Non,
malheureusement.
Non. Mais il y a des 5 à 8 après l'émission. Yes. Ça peut être ça, le vin d'après.
On veut du pain et du vin.
Ouais.
Du pain et du vin.
Pour revenir à la question de, est-ce que, là, on a parlé un peu du sens de la vie, est-ce que vous pensez qu'il y a des valeurs? Puis du coup, on a parlé de valeurs. Qu'est-ce qui pourrait être les valeurs de base d'une religion? Comment créer une religion? C'est quoi les valeurs de base pour créer une religion?
Moi, beaucoup, quand je me suis dit, finalement, la religion, ça fait du sens pour moi, c'est quand j'ai commencé à avoir beaucoup de méditation. Puis ce qui ressort de quand je fais la méditation en groupe, surtout, c'est que je me sens vraiment bienveillant pour les autres. Fait que je dirais la bienveillance, la compassion. Qu'aussi la religion, c'est souvent lié à l'aide des plus démunis.
Aider les autres, fait que l'équité.
Exact. Ouais. Puis aussi la gratitude, ça aussi, je trouve que c'est un grand point de la perte de sens, là. Que comme au Québec, alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les meilleures situations sur la planète et même de l'histoire de l'humanité et trouvent qu'ils vivent des souffrances. Je veux dire, je t'enlève pas ce que tu vis personnellement, mais qu'en termes, mais relativement. Il faut quand même être en gratitude face à tout ce que t'as. Puis la religion amène souvent ça. Par exemple, quand les catholiques, avant un repas, disent on remercie Dieu pour ce qu'on a sur la table, même s'ils devraient remercier aussi la personne qui l'a fait. Mais...
Je sais plus si j'ai entendu ça, genre que tu peux commencer à penser à ton mal-être d'esprit quand t'arrives à manger et à boire.
Mm-hmm. C'est la pyramide de Maslow.
Oui.
Mais d'ailleurs, dans pas mal toutes les régions, il y a des périodes de jeûne.
Oui.
Puis ça, il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est notamment pour... moi j'ai de la chance d'avoir à manger, ça me permet de penser à ceux qui n'ont pas la chance de manger.
Oui, ça. Puis c'est se rappeler la difficulté, puis essayer de comprendre l'autre, peut-être plus, oui. Se mettre dans une situation où tu arrives à vivre un peu qu'est-ce que l'autre vit, puis être plus empathique après ça.
Mais je trouve personnellement que la base de toute religion, c'est plutôt répondre à des questions auxquelles on n'a pas de réponse, du style... en Grèce antique.
Après la mort, genre.
Mais pas que. En Grèce antique, ils ne savaient pas d'où venait le tonnerre, fait que c'est Dieu qui, c'est Zeus qui fait tonner le tonnerre, et ça répond à nos questions. Et ensuite seulement viennent de la compassion, parce que ce n'est pas le cas pour toutes les religions, ou en tout cas pour tous les dieux. Tu prends Arès, il était plutôt.
C'est de la guerre.
Fait que c'était pas comme, soyons sympathiques. Pour moi, c'est plus répondre à des questions que les gens ont besoin de réponses.
À des besoins, en fait.
Ouais, surtout des réponses.
Puis ça,
des questions de la vie de OK, il y a quoi après.
Mais tu vois, Arès, c'était vraiment de la guerre. Fait que je sais pas, il n'y avait pas vraiment de question de d'où vient la guerre. Genre.
Mais sinon, le côté répondre à des questions, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Parce que même si j'adhère pas nécessairement aux réponses à ces questions qui sont données, je trouve que si ça permet à toi de diminuer ton anxiété par rapport à ce qui va t'arriver après la mort, etc. Ouais.
C'est pour ça que je suis jamais 100% contre la religion, dans le sens où je sais que ça apaise beaucoup de personnes de juste au moins avoir quelqu'un sur qui compter, même si. Il y en a qui sont pas en mode OK, j'y crois full, mais si jamais j'ai des problèmes, je vais quand même prier pour me rassurer et de me dire bon, dans le pire des cas, il y aura cette solution là. Moi, je le vois beaucoup à l'hôpital, surtout où les gens comme s'accrochent beaucoup plus à la religion parce que ça leur donne un espoir et te permettent de tenir. Fait que pour moi, ça reste utile à beaucoup de gens et à diminuer leur stress. Fait que tant mieux pour eux si ça les aide. En plus, comme tu l'as dit, ça apporte quand même beaucoup de de points positifs, de aimer son prochain, de faire le, enfin aider aussi les gens plus pauvres. C'est aussi c'est souvent l'Église, bah en tout cas moi je parle en France, fait que j'ai plus l'habitude de parler de l'Église, mais souvent l'Église a aidé les plus démunis, mais en tout cas les religions en général aident les plus démunis. Fait que c'est toujours,
mais ça, c'est toujours très drôle de que l'Église aidait les plus démunis, mais l'Église était au pouvoir puis prenait quand même. En tout cas, c'était, j'ai toujours trouvé ça, en tout cas surtout au Moyen Âge là, puis quand il y a eu la royauté qui était très la royauté, mettons en France le roi soleil puis tout ça qui était choisi par Dieu là. Puis que techniquement ils mettaient, je sais pas si c'est la religion qui nommait ou c'est eux qui se disaient religieux puis qui se disaient nommés par Dieu, là. Je sais pas exactement, il faudrait relire puis leur demander à eux là. Mais ça m'a fait rire de que la religion donne mais apprend aussi beaucoup. En tout cas, je trouvais qu'il y avait un truc
mais
d'échange.
Mais elle ne prend pas aux plus pauvres. Dans le sens, c'était un mais... don. Tu n'étais pas obligé de donner.
La dîme, c'était tout le monde. Hein. La dîme, c'était pas que les pauvres. C'était pas que les riches. La dîme, c'était tout le monde. Dès que tu rentres à l'église le dimanche, fait que tu donnes ta dîme.
Ouais, mais je pense pas les plus démunis.
Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Je suis pas un historien, donc je ne pourrais savoir. Mais je sais pas ce que tu en penses.
Il y a plusieurs choses, là. C'est sûr que, ben, si tu parles du roi soleil, c'est parce que ce qui est intéressant à l'époque, c'est que tous les royaumes francophones, portugais, l'Italie, donc l'Espagne, c'est des royaumes qui ont beaucoup assis une partie de leur pouvoir à travers l'autorité papale. Puis à un moment donné, il est venu une espèce de fracture là, qui est celle de l'Angleterre avec, je pense, Henri VIII.
Ah, les
moins. Qui a formé l'Église anglicane, oui, finalement, c'est... les balbutiements de l'Église anglicane, parce que ben, l'Église catholique ne voulait pas y accorder son divorce. Ouais. Ce que je trouve absolument extraordinaire. Mais
pour elle, elle a raison.
Oui, non, mais.
Ils auraient fait la même chose.
Et donc, puis bon, il y avait quand même des enjeux de pouvoir à cette époque-là, puis c'est dans ce contexte-là qu'est venu aussi tout le protestantisme, puis. Luther qui avait traduit la Bible. Ça, c'est un autre élément qu'on discute peu, mais que ça a eu un impact considérable. C'est que ceux qu'on on dit les plus démunis, les gens étaient démunis au niveau probablement des biens, au niveau de la nourriture, au niveau donc de tout ce qui est richesse.
Au niveau intellectuel aussi.
Mais c'est ça, oui. il y avait un côté être démuni au niveau intellectuel, puis de pas être capable de lire.
Faisait qu'ils étaient obligés de croire qu'est-ce qu'on disait parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement.
Ils étaient. Il y aurait un parallèle assez intéressant à faire avec Miranda Fricker, puis le contexte d'injustice épistémique, là, c'est que ces gens-là avaient pas du tout accès au savoir qui constituait leur système religieux, ce qui est absolument. C'est impensable aujourd'hui, mais ouais, c'est la réalité de l'époque.
C'était la base de la politique à ce temps.
Oui.
Puis tout pays sur Terre l'a fait au moins une fois de contrôler son peuple avec un manque d'information.
Oui, ou de désinformation.
Oui, ou de la désinformation.
C'est très peignant, la désinformation.
Ouais. Puis en plus, pas juste par la religion. Là.
Ah oui, par plein.
Tu peux même utiliser la science.
Oui, aussi, totalement. Oui, moi j'ai toujours pensé que la science était une croyance, parce que tu peux ne pas croire à la science. Il y a du monde qui ne croit pas à la science.
C'est vrai.
Fait que c'est une croyance, même si c'est une croyance qui a des faits vérifiés, mais tu peux y croire ou pas. C'est une idée, au final. C'est une idéologie.
Les fondamentaux de la science sont, je trouve, comme intouchables, parce que c'est de dire que tu sais que t'es pas sûr, donc tu vas toujours travailler pour. Donc ça, comment tu peux être contre ça? Mais tu peux être contre la science d'aujourd'hui, parce que dans 6 mois, elle va être différente. Fait que ça, je comprends totalement. Que...
Ouais, ou tu peux... après, tu peux être contre aussi les valeurs de derrière. Là, si on mettant sur certaines pratiques science. La religion a fait beaucoup de mal, mais la science a fait beaucoup de mal aussi. Mais après, je pense que les deux, on peut pas les dissocier. Là. Surtout dans un cas. En tout cas, souvent, quand on parle. Mettons, partant de Deuxième Guerre mondiale avec les nazis, le problème de base venait de. Bon, il y avait d'autres problèmes aussi. Il y avait des problèmes d'argent et tout ça. Mais un des problèmes était clairement un problème religieux. Là. Et ils ont utilisé. Par la religion, ils ont utilisé la science, même si ça n'est pas nécessairement relié. Puis inversement, ça s'est déjà vu aussi pour la science d'utiliser la religion. Si je parle aux scientologues, c'est quoi la religion des scientifiques là? Ceux qui pensent que tu peux atteindre un état de pureté, je sais plus c'est
la
quoi.
La scientologie.
Scientologie.
Mais
ouais.
Je pense pas que c'est pas la.
Je suis pas sûr, mais.
Ouais, mais non, mais je pense que c'est ça. Scientologie, genre en affaire de même.
Le truc de Tom Cruise.
C'est au nom de la science. Eux, ils se disent que c'est pour une sens, mais c'est une religion. Fait il y a toujours moyen de... Je pense que les deux sont tout le temps un peu liés, un peu, veux pas, le... Dans...
Mais d'ailleurs, la Scientologie...
Attends, là, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a eu, au 20e siècle, une fracture là, à partir des années 60 qui a fait en sorte que tout l'Occident était en effervescence, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de transformations au niveau du religieux. Tu sais, on parlait de la Wicca. 1951, en Angleterre, il y a une loi qui a abrogé qui interdisait la sorcellerie. Au Canada...
Les États-Unis, ça n'a pas été long après aussi. Ouais.
C'est ça. Le Canada puis les États-Unis ont suivi assez rapidement. Puis d'ailleurs, à cette époque-là aussi, ça a permis aux Autochtones de se réapproprier leurs croyances ancestrales. Puis à cette époque-là, donc, on a commencé à avoir des mouvements religieux qui se sont saisis de l'espèce de mysticisme autour de la science. Parce que la science, elle a ses symboles, là, le sarrau blanc, le discours incompréhensible. Elle a un symbole, puis elle a un mysticisme qui a attiré naturellement des personnes à s'approprier ça pour construire des systèmes religieux. Scientologie, c'est cette espèce d'idée-là que les personnes ont des engrammes et que par différentes méthodes et différentes pratiques, ils peuvent se dégager de ces forces-là, ces engrammes-là qui constituent leur individu.
Puis devenir genre un état supérieur de...
Oui, ce qu'ils appellent... J'ai complètement oublié le nom. C'était assez intéressant parce que j'ai eu en entrevue des scientologues, mais j'étais beaucoup plus intéressé par la structure de leur église que par leur croyance dans ce contexte-là. D'autres mouvements qui sont apparus puis qui sont tellement méconnus, c'est les mouvements secoupistes, c'est-à-dire la croyance aux extraterrestres, ça apparaît vers cette époque-là, années 50, années 60. Là.
Les croyances aux fantômes aussi, ça reste. Tout ce qui est la parabiologie ou toutes les parasciences, c'est un type de croyance aussi.
Qui a pris beaucoup d'expansion dans les années 70. J'ai croisé un professeur ici, sans nommer de nom, qui est membre d'un mouvement ésotérique, puis lui, il donnait des cours de parapsychologie dans les années 70 au cégep. Ce qui est...
Nice.
Même début des années 80, puis c'était présent, puis c'était discuté dans le milieu collégial, mais ça passerait plus aujourd'hui. C'est en tout cas...
En tout cas, on réfléchit à ça durant la pause, puis on vous revient avec la réponse par la suite. Au revoir, là. On était rendu à Scientologie.
Oui.
C'est là que tu parlais, qu'on parlait quand c'était laissé.
Mais il y a un truc que je trouve intéressant quand on parle de modernité, de science puis de religion, puis que je trouve qui est tellement pas discuté. Puis on a. Héloïse, je veux t'entendre là-dessus. Parce que là, je viens d'apprendre que tu es dans le programme d'informatique. Ça me surprend qu'il n'y ait pas eu des mouvements religieux comme la Scientologie, qu'il y ait eu énormément de recherches en sociologie. Ils connaissent, en fait, l'espèce d'individu type qui va adhérer à ce type de mouvement-là. Et quand on regarde des phénomènes comme Cambridge Analytica ou d'autres phénomènes de ce type-là, je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu des algorithmes qui ont été créés par ces religions-là pour identifier et cibler leurs membres sur les réseaux sociaux. Moi, ça me dépasse que ça n'a pas déjà été fait.
Mais ça a peut-être déjà été fait dans le sens où c'est possible, surtout maintenant avec de l'intelligence artificielle, vu comment est-ce qu'on est avancé dans le domaine. C'est probablement le cas, c'est juste que souvent on ne le dit pas parce que c'est un peu mal vu, du style, je ne vais pas nommer d'entreprise, mais tu as des entreprises où quand on va sur leur site web, ils analysent absolument tout ce qu'on fait, vers quoi on s'arrête, qu'est-ce qu'on a regardé, et quand ils ont nos promotions, bah, ils vont envoyer des mails par rapport à comment est-ce qu'on a été ciblé. Ça, par exemple, l'entreprise ne va pas te le dire qu'on t'a ciblé à ce moment-là et on t'envoie un mail parce que ça a fake. En fait, ils le font déjà probablement, c'est juste qu'ils ne vont pas le dire parce que ça n'a pas forcément intérêt à ce que le monde le sache. Donc, ça a pu très bien être fait parce qu'on a la technologie pour le faire. En plus, dans ces religions-là, il y a quand même beaucoup de personnes différentes et probablement des informaticiens. Fait que c'est déjà probablement le cas. Surtout maintenant avec... toutes les databases qu'on a sur toutes les informations des gens, notamment avec les réseaux, en fait, avec toute l'Internet. C'est assez impressionnant, donc je pense sincèrement que c'est déjà le cas.
Mais aussi au niveau des religions, ça doit se perdre face à quel point c'est plus politiquement que c'est utilisé sur les réseaux sociaux, parce que justement, c'est plus lié au pouvoir.
En fait, je pense que c'est utilisé un peu partout. C'est utilisé pour le pouvoir, comme on l'a vu avec les élections pour les États-Unis, ouais, avec
ça.
Donald Trump.
Je veux dire que c'est surtout ça qu'on voit, mais que clairement, c'est utilisé aussi pour toutes les autres raisons.
Clairement, c'est aussi utilisé dans...
c'est utilisé partout, point. C'est...
Notamment ouais. Le recrutement de... quand il y avait les groupes terroristes.
Ouais, l'extrémisme, ouais.
C'est ça.
Non, mais c'est clairement, ça a été utilisé probablement par des mouvements terroristes, mais...
Mais ça l'a été utilisé. Pas probablement, ça l'a été.
Ouais, ça l'a été dans une certaine mesure. Je sais pas si ça avait le même degré d'ingéniosité que ce qu'on vient de discuter avec Eloïse, ouais. Mais ça a été, c'est des gens qui ont été ciblés effectivement par les réseaux sociaux. Mais c'est assez intéressant, là. Ça veut dire que vous assoyez quelqu'un comme moi dans une pièce, quelqu'un comme Eloïse, puis vous avez une discussion sérieuse là-dessus, là. Par exemple, un conférencier New Age qui sait que son public cible, c'est des madames en crise de la quarantaine. et là je suis extrêmement sérieux. La grosse clientèle cible là, du New Age, c'est ça. Ben quand tu le sais, tu es capable de créer des algorithmes, de mettre en place des systèmes pour cibler ce public-là. Là. En tout cas, ça va être intéressant dans l'avenir. Moi, je pense qu'il y a un champ de recherche en sciences et religions là-dessus. Là. Fait qu'avis avis aux étudiants et étudiantes.
En informatique.
en études du religieux contemporain. Mais bref.
Après, c'est peut-être plus au niveau de l'éthique, de à quel point ils sont corrects pour cibler le monde d'eux-mêmes. Après, j'imagine que les sectes sont un petit peu moins éthiques concernant la religion. Je ne sais pas à quel point ils seraient à l'aise de justement aller cibler les personnes directement.
Je pense que ce n'est pas une question de croyance, mettons, ou de question de... Je veux dire, de c'est quoi le mot que tu viens de dire? J'ai oublié. Les...
D'éthique?
Non, les... pas des croyances. Pas des mouvements les religieux sectes. Qui sont... Ouais, les sectes. J'oublie tout le temps ce mot-là, pour vrai, à chaque année. Mais oui, les sectes... parfois, il y a des mouvements qu'on appelle sectes qui ne correspondent plus ou moins à qu'est-ce qu'est une secte, dans le sens qu'ils ne vont pas nécessairement aller chercher du monde ou pas.
Mais tu as des sectes fermées.
Genre, la Wicca a été considérée pendant très longtemps comme étant une secte. Pourtant, elle n'a jamais rien fait pour... Fait que, secte, c'est un mot utilisé...
Un mot valise.
Oui, puis c'est un mot utilisé par des religions monothéistes au pouvoir. De base, ça a été utilisé pour ça, pour dire qu'est-ce qui n'était pas la religion qui était au pouvoir. C'est ça, une secte de base.
Ce qui s'est produit, c'est que dans les milieux anglophones, ils utilisaient beaucoup le mot secte sans que ça soit péjoratif pour qualifier des espèces de minorités religieuses, oui. Notamment baptistes. Puis ça vient du sociologue Max Weber, parce que dans les milieux anglophones, ils vont dire cult, donc pour faire référence à un culte qui est plus tourné vers le paganisme,
oui.
Plutôt que les sectes qui sont des micro-églises, des micro-cosmosmes chrétiens, avec des prêcheurs charismatiques. Et quand il y a eu cette espèce de montée-là du religieux dans les années 60, il y a eu une contre-réaction qui a été beaucoup des mouvements familiaux juifs et chrétiens, judéo-chrétiens finalement, qui se sont accaparés du mot « secte » pour critiquer ces mouvements-là. Et toute l'espèce, il y a une grosse mouvance antisectaire qui est d'ailleurs toujours active aujourd'hui, qui est très française, entre parenthèses, et qui continue d'être active en ce sens-là et sont très critiqués par beaucoup de sociologues du religieux, beaucoup de sociologues, même des fois, qui étudient les sciences politiques ou le juridique, parce que finalement, ils vont accuser les mouvements d'être des sectes. Mais ça ne répond pas à la question, est-ce que ce mouvement-là constitue un danger? Ça devrait être la question fondamentale. Puis ça, quand vous asseyez avec un sociologue, les 3-4 choses qu'ils vont vous dire, c'est est-ce qu'il y a des violences coercitives contre les enfants, les femmes ou les personnes âgées? Première question. Est-ce que...
Des vols d'argent?
Est-ce qu'il y a un système de détournement de fonds, de fraude, de vol? Est-ce que, le troisième élément, c'est est-ce que ces mesures coercitives-là dans le système religieux entraînent des problématiques au niveau de la santé, physique et mentale? Dernier élément, c'est à quel point est-ce que ce groupe-là veut prendre de l'espace dans l'espace public? C'est autour de ces 4 éléments-là là, qu'on peut déterminer si un mouvement est dangereux ou pas. Mais d'aller dire tel mouvement est une secte, t'as pas répondu à la question initiale.
Non, c'est sûr. Fait que pour ça, j'aime le mot sec, je trouve que on l'a beaucoup utilisé en éthique et culture religieuse, d'ailleurs, dans mes cours. Puis à chaque fois, j'étais comme, je sais pas, c'est comme pas assez précis. Faudrait trouver un autre. Ben, culte, mais même là, parce que culte, là, mettons qu'on fait, ah, c'est le culte de Satan, genre, parce qu'ils l'ont déjà utilisé, les religieux, là, cette affaire-là, le culte de Satan pour les satanistes, alors que le satanisme est une très belle croyance.
Ouais, ils sont quand même cool.
Ils sont vraiment nice, pas vrai.
Aux États-Unis, ils sont assez relax, très militants.
C'est full révolutionnaire, ouais. C'est très. Fait que. C'est ça, mais au final, un culte aussi, ça a été enlevé de cette définition de base, en fait. C'est encore une fois la religion catholique qui a enlevé la définition de base qui n'était pas reliée à un truc qui était négatif, en fait, de base. Un culte, dans le monde païen, un culte, c'était vraiment juste une offrande, en fait, où c'était rendre hommage à un dieu ou à un événement.
Ouais, mais c'est ça, les religions monothéistes et dominantes ont clairement l'avantage du temps. Dans le sens où on peut pas...
Ben, du peuple aussi, un avantage.
Ouais, c'est ça, mais ce que je veux dire par le temps, c'est qu'on peut pas exactement dire comment ont été faites les origines. Mm. Tandis que, par exemple, avec la Scientologie, moi, un truc que j'ai toujours trouvé solide, c'est celui qui l'a fondé, là, c'était un écrivain. Puis, clairement, il s'est clairement dit explicitement, « Ah, comment je peux faire de l'argent? Ah, tiens, je veux créer une religion. » Donc, ouais. Lui, c'est comme, ça enlève de la crédibilité, parce qu'on sait déjà que ta raison n'est pas divine.
Parce qu'elle a été créée, parce que tu sais que c'est...
C'est ça. Okay. Mais tandis que s'il avait eu la même idée, mais il y a 2000 ans, ben c'est peut-être qu'on l'aurait oublié d'ici là, ou il l'aurait pas écrit. Donc là, ça t'apporte plus de crédibilité. Puis après, comme tu as dit avec les gens, qu'il y a le monde, qu'il y a de la masse qui embarque.
Oui, mais en fait, c'est le fait de... Ben, c'est l'inconnu. C'est ouais, comme c'est on en parlait, c'est le mysticisme, en fait, de fait de... Cette affaire-là de comme pas savoir d'où ça vient, qui nous pousse à dire « Ah, ça a toujours existé, en fait. »
Ouais, moi, j'ai un peu de mal à voir la différence entre une secte et... Ben, une secte, comme je l'entends, dans le sens où un prophète qui n'est pas réellement un prophète a déclaré une nouvelle religion... C'est ça, là, qui partait un peu juste du postulat de « je veux me faire de l'argent et escroquer des gens ». Pour moi, c'est un peu ça, une secte. C'est quoi la différence avec les religions monothéistes de base, du style musulman, catholique, juif
Ouais,
c'est comme, vu que ça s'est passé il y a longtemps, qu'est-ce qui te dit que Jésus, c'est pas ça qui s'est dit dans sa tête?
Au début, ouais. Au début, c'est peut-être Jésus qui était comme genre « yo, c'est quoi? Comment je peux faire du cash? » Ouais,
mais parce que, par exemple, la Bible... Ben, la Scientologie, je connais pas assez, mais j'ai l'impression que ça vient beaucoup d'une personne, en grosse partie. Tandis que, par exemple, la Bible, ça a été... écrit par tellement plusieurs personnes
mais
que ça apporte une certaine...
À la base, t'es-tu sûr que ça a été écrit par plusieurs personnes ou c'est une personne qui l'a écrit puis qui a dit que c'est écrit par plusieurs personnes?
Mais sûrement la première partie, mais après, je pense que c'est au fil des années que ça s'est...
Non, ben les livres, ça dépend là, de quelle période, là, parce qu'il y a beaucoup des livres, par exemple, tout l'Ancien Testament, ça a été écrit aux alentours de 700-900 ans avant
Jésus-Christ. Mais on les a-tu, les premiers manuscrits?
Les premiers manuscrits, c'est ce qu'on doute, c'est que c'était des récits oraux qui ont été mis à l'écrit par des individus. C'est pareil avec le Nouveau Testament, c'est-à-dire que la majorité des livres qui composent le Nouveau Testament, ça n'a pas été écrit à l'époque de Jésus. C'est des personnes qui relataient l'histoire de Jésus.
Puis à un moment donné, ils ont dit « Ah, on a l'écriture. » À un moment donné, l'écriture est arrivée.
À un moment donné, on l'écrit.
À un moment donné, l'écriture, là, puis ils ont fait « Ah, ça serait peut-être pas con
de l'écrire. »
Oui, c'est ça, les best-of.
Puis c'est assez amusant, là, parce que, par exemple, il y a les quatre livres là, qui sont relativement connus, là, avec Jean-Pierre et Marc. Bon. Puis c'est parce que ces quatre livres-là sont fondés sur un livre ancien qui ont été capables de reconstituer, qui appelle le proto-Marc. Là, on tombe vraiment dans l'histoire de ces études-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui a probablement été écrit aux alentours de 60-70 ans après le décès de Jésus. Fait que on n'a pas de livre de son vivant. C'est des choses qu'on observe chez d'autres religions. Là. Je veux dire, le Coran, ils disent qu'il y a une seule version. Il y a une vingtaine de versions différentes qui ont été créées à différents moments après le décès de Mahomet. Fait que,
Mais on va saisir sur une autre pause. Alors déjà, je sais, déjà. Puis après, j'ai une petite affaire à parler, puis après, on parlera des problématiques religieuses. Donc, une petite pause. YOLO. Oui, c'est ça. On se retrouve, on parlait juste avant, on avait parlé des textes anciens. Moi, j'étais en train de me dire, il n'y avait pas avant de l'écriture sur de la pierre?
Oui.
Fait qu'il n'y aurait pas eu des textes de ça qui auraient pu être retranscrits? Ou on n'en a pas tout découvert? Je sais pas, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus, mais...
Ben, quand tu fais référence à quel texte qui aurait pu être écrit
sur la pierre?
Ah, peu importe,
n'importe quel. Là, je sais pas lequel était... Je me souviens plus, c'est quand les manuscrits, ça a été... les premiers, ça a été en Égypte, me semble, les premiers manuscrits.
Oui, non, mais là, on tombe... parce qu'on parlait de l'Ancien et du Nouveau Testament, ouais, mais là, ça. Si on tombe dans l'Égypte, là, l'Égypte, ce qui est assez particulier, c'est que c'est le système d'écriture qui a été le... actif le plus long dans l'histoire de l'humanité. Là. Ils ont comme été actifs pendant 3000 ans. Il y a eu différentes périodes d'écriture de l'Égyptien, qui appellent comme l'Ancien, le Moyen, puis la Haute Égypte.
La Haute.
Oui, la Haute Égypte.
C'est nice.
Et que dire là-dessus? Même... Je ne suis pas un spécialiste de ça, mettons, mais effectivement, il écrivait sur la pierre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ce qui est assez amusant, c'est que les hiérogrammates, en fait, c'est pas compliqué. Si tu étais prêt à essayer de copier un hiérogrammate alors que tu n'étais pas initié dans les cercles de hiérogrammates à cette époque-là, ils te tuaient.
Ah, c'est
ça,
nice.
Ça c'est vraiment nice.
Mais non, mais à la fin, c'était plus, je veux dire, mettons pour... mais avant Jésus, c'est Mahomet, c'est ça?
Non, c'est après.
C'est après.
Avant,
c'est Abraham. C'est quoi là? C'est Abraham. Mais c'est quel le premier texte qui est avant?
C'est d'abord juif, ouais, c'est après ça. Chrétien, c'est juste,
moi, les Juifs, oui.
C'est Moïse.
Fait que le premier, c'est...
Moïse qui a quitté l'Égypte.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est ça. Mais en fait, ma question, c'est plus vers ces époques-là, on n'a pas de texte en, écrit, on n'a rien retrouvé, même pas en pierre, mais pas en rien. On n'a rien retrouvé.
Ben, de quelle époque?
Avant Jésus. La première religion, la première des grandes religions.
La première des grandes religions, ça veut dire tu parles de judaïsme.
Oui.
Ce qui est assez particulier avec le judaïsme, c'est que les mythes qui forment le judaïsme, il n'y a comme pas de preuves archéologiques. Mais les premiers textes, par exemple, concordent avec la mise en place de certaines des peuplades, donc à peu près 700 à 900 ans avant Jésus-Christ, autour de la mer Morte, qui constitue probablement le berceau du judaïsme.
OK. Mais y avait-tu des noms d'auteurs à ce moment-là?
Non,
c'était au nom de la religion. C'était Dieu qui l'avait écrit, je pense. Fait que c'était genre...
Ben, c'est pas qu'il y avait des noms d'auteurs, c'est que c'était vraiment... C'est qu'on voulait venir mettre à l'écrit des mythes qui constituaient l'histoire de ces peuplades-là. Donc, l'idée, par exemple, que Moïse a pris les grands prêtres de l'Égypte, a quitté l'Égypte, a traversé le fleuve va séparer les eaux. Bon, toutes ces mythes-là qui étaient constitutives de ces peuples-là à l'époque, c'est à un moment donné, c'est juste qu'ils ont mis à l'écrit. Mais probablement qu'il y avait des récits oraux qui circulaient avant. Là.
Fait que tu veux créer une religion, prends un récit oral, puis mets-le en écrit. Au résumé. Bref, donc, passons à un autre tournant de la conversation pour le dernier 25 minutes. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des problématiques au niveau de la religion, à l'interne ou que. Problématiques à l'interne dans la religion ou des problématiques que la religion crée à l'externe?
Ce qui est assez intéressant, comme je discutais tout à l'heure, c'est l'idée que si tu essayais de copier hiérogrammate, tu te tuais, là.
Oui, mais mettons là.
Ou que le Vatican a tellement d'or, que l'aspect pouvoir est un problème. Mais sinon, pour en nommer un, qui est. Comme à plusieurs religions, puis aussi qu'au début tu parlais de Wicca, qui est très féministe, ben, la misogynie qu'on retrouve dans beaucoup de religions, mais que...
Qui est déconstruite maintenant, je trouve.
Qui était,
que,
comment?
C'est quand même déconstruit dans le sens qu'il y a des mouvements féministes de chaque religion maintenant qui repartent, ouais, puis clair, qui créent... Ouais. Il y a des nouvelles versions de chaque religion aussi qui sont plus féministes, puis plus ouvertes.
Ben c'est ça, ce serait ça mon principal défaut par exemple à la religion, c'est que ça peut être un peu vieillot... anachronique, ouais. Au temps qu'on vit aujourd'hui. Parce que pour les côtés, je dis misogyne entre guillemets ou pas en guillemets comme vous voulez, mais ils pouvaient être plus adaptés à cette époque-là où il y avait plus de violence, la survie était plus difficile. Puis je pense que dans des périodes où la survie est, c'est plus difficile à survivre, les hommes et les femmes vont plus dans des rôles traditionnels, disons. Parce que si la société a plus besoin de violence, ben là, ça met les hommes dans une situation, ça met les femmes dans une situation. Mais je dis pas nécessairement que c'est bien ou pas bien, mais je dis ça doit se. Justifié par ces manières-là et aussi pour des raisons de pouvoir.
Je dirais pas justifié parce que ça dirait que okay, c'est expliquer, correct, expliquer. Mais expliquer, ouais. Parce que on voit ça en théorie, en postcolonialisme, dans un de mes cours, puis on est comme genre, ok, ça justifie pas, ça explique, mais ça justifie pas parce que justifié, ça serait dire que ça serait correct.
Mm-hmm,
ouais. Mais totalement d'accord avec ça, là, que clairement, que les situations difficiles ont créé. ancrer Puis le pouvoir, le désir de pouvoir de l'homme, là, point en général. Là, dès que tu mets quelqu'un au pouvoir, tu prends quelqu'un avant qu'il rentre au pouvoir, il est comme « Ah, je veux changer le monde ». Tu le rends après son pouvoir, « I need more cash ». C'est tout le temps ça. Tu regardes la majorité des politiciens, c'est souvent comme ça que ça finit. Tu vois, c'était...
Le pouvoir en fout.
Ouais, ah ben ça, oui. C'est pour ça qu'il faudrait pas de pouvoir, mais en tout cas, ça serait pas possible. Mais il y en a qui ont essayé, puis finalement, ça a quand même créé du pouvoir à chaque la Russie. Mais genre...
Mao, c'est un bon cas aussi.
Ouais.
Techniquement, la Russie, en fait, c'est plus l'URSS dont tu parles. Mais ça dépend des époques. T'as certaines époques où ça s'est quand même très bien passé, puis...
Ouais, mais ça a quand même fini...
Que ça s'est bien passé? C'est quoi ton exemple?
Ouais, les premières années, mais ça s'est quand même fini
non,
avec...
Non, pas les premières années. Je parle plutôt des dernières années. Celui qui était juste avant Gorbatchev, c'était Khrouchtchev, si je dis pas n'importe quoi. Et Khrouchtchev a été très justement dans « Moi, je suis pour le peuple et je veux que le peuple aille bien ». Ce qui fait qu'il a dépensé énormément d'argent pour que, disons, n'importe qui pouvait manger du caviar, par exemple. Ils ont vraiment appliqué le principe communiste de « N'importe qui peut avoir une voiture, il faut juste que tu t'inscrives sur une liste d'attente ». Mais si tu produis assez, tout le monde a une voiture, donc c'est magnifique. Et Khrouchtchev a été quand même très bon pour l'URSS. Enfin, pour le peuple, disons, de l'URSS, il a été très mauvais pour le pays en lui-même, parce que c'est lui qui l'a un peu coulé, étant donné que c'est lui qui a...
mis les dettes.
Lui qui a créé des dettes, en fait. Mais pour le peuple, c'était super, et ça c'était une bonne vision du communisme, disons.
Mais à très court terme. Que ça, c'était pas...
Mais c'est pour ça que je te dis, au final, ça a quand même fini que c'est quelqu'un qui a repris le pouvoir puis qui a décidé que ah, tout est en moi puis je reste là jusqu'à temps que je meure.
C'est pas réducteur, mais...
Mais que même si on aurait continué comme lui, tu meurs, ça allait vers l'échec, vu que...
Ouais, mais après l'erreur est humaine, comme on dit. Mais je pense qu'on aurait pu... Non, mais il y aurait eu moyen de restructurer l'affaire pour qu'il n'y ait pas ça. Il y a peut-être mettre du caviar à tout le monde, c'était peut-être pas la priorité à mettre à tout le monde. Là. Genre, il y avait comme d'autres affaires à mettre à tout le monde, mais, mais genre, le caviar, c'est peut-être un peu exagéré non plus. Là. Mais oui, clairement qu'il était dans la bonne voie, puis je pense qu'il y aurait moyen de reprendre son... de retravailler son système pour faire une meilleure URSS version 2. Ouais.
Ce serait un autre débat, mais moi, je pense que c'est incompatible avec l'humain.
Tu penses être équitable avec tout le monde dans tout, ça serait...
C'est incompatible avec l'humain, puis c'est incompatible avec la nature. Dans, nulle part dans la nature, on voit...
Avoir assez pour tout le monde.
On voit l'égalité, genre.
Mais il y a ça, mais aussi, là, je sais même pas si la nature serait capable de
Même eux, il y a les fourmis, il y a les rennes, il y a ceux qui se sacrifient pour faire un pont, il y a ceux qui...
Mais est-ce que, du coup, tu vois ça comme une inégalité? Ou, tu sais, si jamais tu décides toi-même de te sacrifier pour le faire le pont...
C'est ça, c'est égalitaire pour eux, parce que c'est des fourmis, mais l'humain, jamais quelqu'un ferait... Ben, je pense pas que l'humain...
Il y en a qui l'ont fait, qui sont tués pour d'autres.
Ouais, mais il faut qu'il soit manipulé. Ça vient pas d'un sentiment humain.
Il y en a plein des personnes qui sont... Des personnes qui vont à la guerre, ils se sacrifient pour leur peuple. C'est pas ça?
C'est ça, mais souvent, ils sont manipulés par des raisons. On le fait pour défendre notre patrie, alors que tu leur dis pas... Oh, non, c'est pour aller chercher du gaz, pis
Ouais, il y a d'autres formes de sacrifice, là, je veux dire. Allez en première ligne, les infirmières... les médecins, les travailleurs sociaux.
Je sais, mais si les
pompiers,
il y a une forme de sacrifice là.
Clairement, mais ça prend clairement des incentifs financiers que l'infirmière puis le pompier qui va sacrifier ne voudrait pas être payé le même que celui qui n'a pas fait d'études. Puis, si vous voulez vraiment aller à l'égalité jusqu'au bout, là, genre.
Mais l'égalité, ça serait que tout le monde ait le même truc. Mais le problème, je pense que je ne sais même pas si la Terre aurait assez de ressources pour être égale avec tout le monde. Parce que déjà là, on est déjà au-dessus des ressources, puis on n'est même pas égal avec tout le monde.
Mais on est au-dessus parce qu'il y a beaucoup de gaspillage puis de corruption. Ouais. Donc là, il faudrait aussi un monde où il n'y a pas de corruption, où il n'y a pas de gaspillage. C'est pour ça que je dis que ça ne fit pas avec l'humain.
Mais en fait, moi j'ai toujours dit ça, là, puis j'en parlais avec un ami, mais j'étais comme, même des amis, j'étais comme, l'humain a chié la patente quand il a décidé qu'un mouton valait 3 lapins. Quand il a commencé à comptabiliser, ça chie les affaires.
Et toi, t'aurais dit qu'un mouton égale un lapin?
Non, mais juste... On se donne. Point.
Ouais, mais le gars qui a passé 20 ans à faire élever, je sais pas les enjeux, mais 20 ans à faire élever ses moutons, l'autre qui a passé 5 ans à faire élever ses lapins, tu les mets sur le même pied d'égalité, c'est un peu injuste. Le gars va dire, hey, j'ai fait nourrir ça, j'ai dû travailler sur ma terre 20 ans,
ça,
toi 5 ans.
Oui, mais c'est ça, si tout le monde travaille pour tout le monde, puis que tout le monde donne à tout le monde, ça se rééquilibre.
Non, mais le problème, c'est que le temps est une ressource finie. Puis ton temps est la chose la plus précieuse au monde. Fait que genre, donner 20 ans de mon temps
ça
pour que Ouais, c'est ça. Mais en tout cas,
mais
j'aspire, ça serait beau un monde où tout le monde penserait comme ça, mais
ça, ça non, ça marcherait pas, je pense, parce que le monde aime surtout notre génération, on est vraiment dans l'affaire de faut penser à soi en premier, faut aller, c'est con là, mais on veut une société qui est égale avec tout le monde, mais on est tout en train de se dire qu'il faut penser en soi en premier.
C'est vrai. Mais en tout cas, moi, c'est surtout au niveau du temps là, que ouais. Je trouve que c'est impossible que ce soit égalitaire, parce que puis c'est un truc avec la religion.
Mais de toute façon, on n'est pas égalitaire de base. Il y a des personnes qui ont des maladies, il y a des personnes qui ont des... juste au niveau physique, on n'est pas égalitaire.
Moi aussi. Mais que c'est ça, par exemple, au niveau des religions, qu'il y a, la mort est beaucoup au centre de ça.
Ah ouais.
Et que c'est, ben, que c'est un point positif, dans le sens que quand tu penses à la mort souvent, tu vas plus vouloir prendre soin des gens autour de toi. Tu vas plus penser à créer des relations plutôt que de dire « Ah, je veux du pouvoir parce que, ou je veux de l'argent parce que tu sais que l'argent, tu ne vas pas l'apporter à ta mort. » Ça va vraiment avoir rien signifier, tandis que
c'est
les relations
cher.
Que tu peux créer,
des enfants. C'est cher, un cimetière chrétien. C'est cher. Mais pour vrai, enterrer les morts, ça coûte fucking cher.
C'est vraiment un domaine payant, là, je tiens à te le dire. Là,
ben oui, oui. Oui, j'en doute même pas, là. Travailler là-dedans, là, tu te fais du cash en tabarnak. Mais genre lâcher les études de la gang et aller là-dedans. Là,
ouais, sinon, c'est parce que tu sais, la seule certitude de l'existence, c'est que tu vas probablement terminer entre quatre planches de bois. Donc
non, moi, je vais finir en cendre.
Ouais. En cendre aussi. Non, mais c'était une métaphore, mais pour mais dire que tout le monde va décéder. Donc,
ah, mais tout le monde meurt.
C'est comme un domaine où tu as une certitude.
Mais de toute façon, ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé drôle dans la vie. C'est la seule chose que t'es certain dans la vie, c'est que tu vas mourir. Fait que...
Avec le seul métier certain, c'est croque-mort.
Oui, informaticienne et croque-mort, c'est les deux métiers d'avenir.
On se laisse une petite pause, puis on vous revient juste après. Et on se retrouve pour le dernier, moins de 15 minutes, là, il reste genre 12 minutes. Mais c'est ça, est-ce qu'on avait d'autres problématiques que le... Ça peut être précis ou juste en général, là, comme Ayonne avait parlé.
Ouais, moi j'en ai une autre, mais c'est pas tant lié à la religion que le fait que ce soit un groupe de personnes. C'est, le bouc émissaire. Généralement, quand t'as un groupe de personnes, t'as besoin d'un bouc émissaire.
Un ennemi,
une personne qui prend un angry, puis que ce soit une personne ou une autre religion. Et ce qui crée beaucoup de conflits en fait entre les religions, parce que les protestants sont pas comme nous, donc c'est tout choisi pour les catholiques d'aller attaquer des protestants. Et souvent, le bouc émissaire, c'est quand même une entité qu'on retrouve dans toutes les époques et qui permettent de libérer, disons, nos bas instincts qu'on utilise tout le temps. Fait que c'est pas tant le problème, c'est pas tant la religion, c'est plus le fait que la religion amène à créer un groupe de personnes qui, eux, ensuite, ont besoin d'un bouc émissaire. Mais ça, c'est plus l'humain, le problème.
Ben c'est ça, c'est comme on en avait parlé dans le féministe, qu'on avait parlé pendant genre une heure de religion, là, mais ça j'avais dit, c'est la religion a aucun problème avec. Je veux dire, la base comme t'en parlais, la base de la religion, j'ai toujours pensé que c'était l'amour. Point. C'était le but était de créer de l'amour de plein de façons différentes. Mais le problème, ça a toujours été les humains.
Ouais.
Mais comme n'importe quelle idéologie. Les idéologies en soi ne sont pas mauvaises. Ça, c'est des idéologies, ils pensent pas. C'est les humains qui les mettent en pratique, qui les rendent mauvaises.
C'est vraiment pire, comme tous les outils aussi, ou par exemple les réseaux sociaux.
Ouais,
ou,
je veux dire, je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale a fait avancer plein d'affaires au niveau de... Que maintenant, on utilise
médical.
Encore, là.
Ouais, au niveau médical, ça a été des grandes avancées.
Au niveau médical, ouais. Mais
télécommunication.
Au début, c'était quoi? Ça a été beaucoup servi pour tuer du monde, mais il y a beaucoup de trucs après qui ont été réutilisés pour sauver du monde.
Non, même pas que. T'as beaucoup de choses, d'expériences qui ont été faites sur des juifs parce que c'était des bons cobayes gratuits et obligés. Fait que c'était pratique pour ça, mais terrible à la fois.
Ouais. Mais non, c'est ça. Je veux dire, j'en parlais. La guerre fait avancer la science. C'est malheureusement, mais si tu veux, comme on a parlé tantôt, la meilleure façon de faire avancer le monde, c'est de faire une bonne guerre.
Ouais.
C'est triste, mais c'est ça qui a tout le temps réussi à faire avancer. Il faudrait trouver un autre moyen. Je dis pas qu'il faut en faire une guerre, clairement pas.
Non, tu viens de dire que les forces de l'OTAN devraient attaquer
la Russie. Non, c'est ça. Go! Guerre nucléaire. Mais justement, le nucléaire a été créé pendant, la deuxième, je pense. La deuxième. Mais maintenant, ça a permis à faire des énergies, mais au début, c'était vraiment genre c'était vraiment pour attaquer, mais finalement, maintenant, on l'utilise. Bon, encore pour attaquer, évidemment, mais on les a encore. Mais il y a aussi cette affaire-là d'énergie aussi qui a été réutilisée par la suite.
D'ailleurs, c'est une invention française.
Oui, c'est vrai.
Mais l'idéal, ce serait qu'on se fasse attaquer par des extraterrestres. Parce que là,
tout le monde se mettrait. Exact. Mais là, ça ne serait pas raciste envers les extraterrestres d'attaquer des races.
Ils viennent d'une autre planète qui retourne chez eux.
Qui tourne sur leur planète. Ouais. Ouais, je sais pas. On est toute une espèce vivante.
Mais le cas de du bouc émissaire est intéressant parce que c'est un phénomène qui existe au niveau religieux. Puis là, je pourrais en parler longuement, là, mais un cas qui était intéressant et extrêmement malheureux, c'était celui de l'église de Windsor. Donc, on est vraiment dans la région. Puis à la fin des années 80, il y avait un pasteur dont ses boucs émissaires, essentiellement, c'était les enfants à problème. Et en se fiant des écritures de la Bible, il justifiait la correction physique, puis effectuait la correction physique devant les membres de la communauté. Donc, tout son système, finalement, de bouc émissaire était tourné vers les enfants à problème. C'était un moyen, de conserver une certaine crainte là, dans le cercle de la communauté. Puis, il y a eu des recherches assez intéressantes là-dessus. Mais c'est pas un phénomène qu'on retrouve uniquement dans le religieux.
Non, clairement pas.
Je veux dire, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont été les boucs émissaires là, du régime nazi.
Clairement.
Qui n'étaient pas religieux, qui étaient même anti-religion.
Ouais, mais dans le sens, le problème d'abord, c'était le fait que c'était sur une religion. Là. C'était stické sur une religion. Là, le problème,
mais, c'est que mais le les nazis n'étaient pas basés sur une religion. Ouais.
Mais c'est pas chrétien?
Non, mais attendez. Non, c'est parce que ce qui est particulier avec les nazis, c'est qu'ils ont puisé dans l'ésotérisme. Tu sais, on parlait notamment du 19e siècle.
Les nazis étaient très parapsychologie, parapscience. Ils ont fait plein de tests de contrôle télékinésique, puis l'enfant de même.
Oui, ils ont fait des trucs weird, on va se le dire. Là, puis, mais juste le symbole du nazisme, qui est la
svastika,
fondamentalement, ils ont pris ça à des systèmes religieux de l'Orient.
Ils ont tout détourné, en fait.
Ils ont tout détourné pour mon intérêt.
Il reste un peu de temps. On va parler, pour le dernier sujet, c'est juste des petits conseils sur la religion. Je sais pas, genre des petits conseils de « faites pas confiance à tout le monde » ou genre « écoutez-vous », je sais pas, des conseils de, à vous-même que vous vous aurez donné. Je sais pas, par exemple, à toi avec ton père, c'est quoi tu te serais dit à toi jeune, à quelqu'un qui vit des parents qui imposent une religion, qu'est-ce que tu dirais, toi, que t'aurais aimé que quelqu'un te dise, peut-être?
Mais si je suis dans une situation où je peux vraiment pas m'en sortir, que ce serait juste de la confrontation... Le conseil que je me serais donné, c'est vas-y à fond dedans. Ben, après, c'est dur de dire à un enfant, et du recul, mais donc plus si je dis je dirais fais-le à fond pour voir qu'est-ce que ça peut t'apporter. Puis après, tranquillement, tu vas pouvoir prendre du recul avec ça. Mais que peut-être que j'aurais eu des apprentissages jeunes que ça m'a pris plus de temps à faire parce que j'étais comme, non, je veux même pas entendre parler de ça. Ouais. Puis ce serait un autre de mes conseils aussi que je me dirais à moi plus jeune. C'est comme, c'est pas parce que. Focus pas sur la symbolique, parce que souvent on fait ça avec la religion, on se dit « Ah, tu crois à ces histoires-là » ou « tatata ». Mais c'est pas vraiment ça le point de la religion, c'est plus de regarder le fond plutôt que la forme.
L'humanité derrière.
C'est ça, donc je dirais, et ça permet d'être moins jugemental. Puis donc si tu critiquerais les religions, ben prends pas un peu les mauvais aspects des religions qui sont d'être un peu, trouver des boucs émissaires, puis de dire « Ah, eux, tatata, eux, tatata okay. », autant être tous ensemble.
Toi et Lou.
Moi, je dirais, c'est peut-être lisez les textes religieux. Lisez au moins les principaux pour, c'est ça, comme au moins essayer quelque chose, essayer de comprendre, parce que souvent, c'est ça, là, l'incompréhension.
La majorité du monde ne savent même pas, puis la majorité du monde dans la religion ne les ont même pas lus aussi.
Exactement, quand je pose des questions à des religieux, il y en a qui savent même pas me répondre, je suis comme, bon, est-ce qu'au moins t'as lu une fois ton texte? Mais lisez-le, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Puis je pense qu'il y a
une belle lecture de dimanche.
C'est ça, puis il y a souvent aussi des enseignements quand même très intéressants. Fait que lisez-les, c'est une bonne culture à avoir. Puis aussi pour comprendre les religieux, les religions, parce qu'il y a quand même des gros débats dans la société. En France, ça a fait beaucoup de débats avec le port du voile, obligatoire ou non, enfin, est-ce qu'on autorise tout ça.
Ouais.
Donc,
ici aussi, là, même si je pense que ça a fait débat, là, mais surtout au niveau des enseignants, en fait. Mais...
Ouais. Lisez les textes.
C'est, puis comprendre l'histoire. Ouais,
ouais, comprendre l'histoire des religions, ouais, c'est peut-être important.
La parole est créatrice, c'est-à-dire que une personne peut créer tout un univers avec sa parole, avec ses écrits. Et puis, à travers sa parole et ses écrits, il est capable d'orienter ou même de détourner des destinées d'individus pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est un principe qui va revenir très souvent dans tout ce qui est religieux, dans tout ce qui est politique. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui écoutent des paroles ou qui lisent des choses de prendre un recul et de se poser la question fondamentale. Cette personne-là qui est en train de parler, que ce soit un prêcheur ou que ce soit un politicien ou que ce soit en privé, ses paroles essaient de me conduire où? Vers quel endroit? Vers quelle destinée?
OK. Ben c'est ça, j'ai pas envie de trop de répéter, mais oui. Puis comme je vais dire, en gros, comme je vais dire à chaque épisode,
communication.
Je suis tout le temps entré en disant communication parce que c'est la base de la vie. Apprenez. Et quand je parle de communication dans ce cas-là, c'est vraiment aller vers les personnes religieuses. Je pense que c'est important d'aller vers les pas seulement y aller genre pour aller prier, mais juste aller vers eux pour comprendre. Parce que je pense que parfois, on a des préjugés, puis pas nécessairement négatifs, juste on va comme, je sais pas, penser que la personne, par exemple, comme on parlait des personnes voilées, ah, c'est une obligation de la religion, alors que c'est culturel, la majorité du temps, que dans certains cas. Et non, c'est ça, c'est aller voir le monde, puis voir qu'est-ce qu'eux, ils pensent de leur propre religion. Parce qu'il y en a qui sont très, très critiques de la religion aussi. Hein. Il y en a plein des personnes religieuses qui critiquent la religion. Puis, ouais, faire des recherches, comme on a dit, lire les livres, ou peut-être pas tous les livres, là, mais lire, il y a des résumés, ou les...
documentaires, au pire.
Genre le top 3 des meilleurs textes de la Bible, genre, ou comme, je sais pas si ça existe.
Mais je crois que la Bible a été aussi faite en manga, fait que dans le pire des cas...
c'est vrai qu'il y a un manga, tout ouais. Ça, c'est vrai, ça a été fait. Ouais. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés, on vous souhaite un bon 5 à 8, ben 4 à 7, en tout cas 4 à 8. Puis,
5 à 8 pour Génie.
Oui, c'est ça, c'est quand même pour Génie. Merci d'être venus, les invités, les chers. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Et on dit au revoir aux personnes qui nous écoutent. Bye-bye!